Bonjour à tous. Grand invité de cette grande table du vendredi, l'écrivain Régis Debray, grand prix de littérature de l'Académie française cette année. Il est aussi l'auteur chez Gallimard du génie français, Stendhal, Hugo, qui, pour incarner ce génie singulier, notre écrivain philosophe refait le match avec nous jusqu'à midi et demi. Rejoint en deuxième partie par la spécialiste d'histoire culturelle Anne-Marie Thiès, qui s'interroge, elle, dans la fabrique de l'écrivain national sur cette figure de la scène littéraire et politique française. Comment incarner cette fiction, construction qu'est la nation en France mais aussi à l'étranger. On en reparlera avec elle à partir de midi 55. Bienvenue sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
En art, le contre n'existe pas, a écrit André Malraux, que vous citez en exergue, en introduction de ce livre. Régis Debray, bonjour.
Bonjour.
Là, il va falloir jouer tous les contraires, être à la fois l'avocat de l'un et l'avocat du diable, jouer le plaidoyer et le réquisitoire. Vous allez devoir incarner tous les rôles puisque vous êtes seul ici pour parler de ces deux écrivains, ces deux monstres de la littérature française que sont Stendhal et Hugo, qui sont au cœur de ce petit essai du génie français que vous signez chez Gallimard. Alors il faut peut-être raconter l'aventure de ce petit livre qui est né d'une consultation à laquelle vous avez été associé un peu sur le tard, racontez-vous, raccroché au train à titre de stagiaire autorisé à dire son mot. C'était à la même époque, à peu près l'an dernier, en petit comité, la Société des gens de lettres, la France, se cherchait un homme de lettres à honorer en vue de l'exposition universelle de l'an prochain. Et vous voilà donc rattaché à cette aventure. C'était important pour vous ?
J'étais flatté d'abord, parce que c'est vrai que la LGDL a d'abord consulté son comité directeur, c'est 24 auteurs, n'est-ce pas ? Ils avaient reçu une lettre d'Emmanuel Macron, on l'a écouté, comment va-t-on intituler le pavillon français de Dubaï dans un an, puisqu'il y aura Goebbels, il y aura Cervantes, Camoens, etc. Et nous qui ? Moi je trouvais ça bien de mobiliser une institution réputée. Et donc, à ma surprise, voilà, donc Stendhal est venu avant. Ça ne m'étonne pas, parce que Stendhal, c'est chic, et Hugo, c'est pecno, c'est démago. Donc ça ne m'a pas étonné, si vous voulez, que ces auteurs très, très, très avancés aient choisi. Alors, ça m'a tout de même interpellé, parce que je me suis dit, oui, c'est vrai que Hugo a une situation, mais Stendhal a de la présence, aujourd'hui. Il y a une situation, bien sûr, Hugo, parce que c'est un monument, comme disait, je crois, Villard ou Louis Jouvet. C'est un monument tellement imposant qu'on rentre plus dedans, qu'on voit plus ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai que Hugo a été victime de sa monumentalisation, de son officialisation du côté, je dirais, école primaire, cours du soir, kitsch républicain, grand-papa, pot de confiture. Bon. Mais en fait, je me suis demandé pourquoi Stendhal avait tellement de présence et Hugo, finalement, pourquoi il restait, je dirais, dans le marbre, sans faire vibrer. Voilà. À partir de là, j'ai eu ce petit essai, là. Elle a fait hier soir un deuxième tour, où je dirais que Hugo a pu reprendre du poil de la bête.
C'est toujours intéressant de savoir si on parle de l'homme ou de l'œuvre, et à quel point les deux se confondent. Si on prend le cas de Victor Hugo, on a le sentiment d'avoir déjà tout investi dans cet homme, de tout savoir sur lui. En même temps, son biographe, Jean Marcovas, rappelle que peu de gens ont lu l'intégralité, tout simplement, des Misérables. Contrairement peut-être à Stendhal et Le Rouge et le Noir, que chacun peut s'approprier, choisir de le lire ou pas, ça semble plus accessible que les 1300 pages intégrales des Misérables. Vous les avez lus à quel âge, vous ?
Écoutez, comme tout le monde, je les ai lus par petits bouts. D'abord parce que à l'école, on se demandait si Jean Valjean allait piqué ou pas par Javert, hein, bon, et puis Gavroche, et puis tout ça. Mais vous avez raison, Victor Hugo est victime de son immensité. Il est victime de sa monstruosité. D'ailleurs, c'est Sainte-Beuve, enfin, ou Sainte-Bave, mais qui, pour une fois, a été assez juste, qu'il avait pourtant aucune raison de l'être, puisqu'il avait couché avec la femme de Victor Hugo. Enfin, tout de même, il a dit à un moment donné, Victor Hugo n'est pas de la race des hommes, il est né des dents du dragon. Ben, il était effectivement devant quelque chose d'un peu surhumain. Mais l'étonnant chez Victor Hugo, c'est qu'il couvre, je dirais, l'arc entier des choses, si vous voulez, c'est-à-dire depuis le plus intime, le plus érotique ou jusqu'au plus cosmique, en passant par toutes les veines, toutes les cordes, tous les registres de la langue et de la pensée. Alors c'est vrai que le problème de Hugo, si vous voulez, c'est cette sorte de mécanique à 12 pieds, l'alexandrin, bon, qui nous tombe un peu des mains. Et c'est dommage, parce que quand vous lisez, par exemple, moi je m'occupe un peu d'histoire des religions, je ne connais pas de réflexion plus profonde sur le fait religieux que ce morceau intitulé « Religion », singulier, virgule, religion avec un S. C'est, je crois, 1500 vers qu'il a publié vers 1880. Moi, je peux pas dire mieux sur, je dirais, la justesse métaphysique du propos. Puisque, je vous rappelle que tout de même, Hugo, c'est un homme qui a préfiguré, si vous voulez, au 19e, le 21e siècle. C'est pas mal. Il a préfiguré trois choses. D'abord, la mondialisation, puisque il est le réceptacle, l'éco-sonore du siècle, mais l'éco-sonore de la planète, puisque tout ce qui combat dans le monde vient chez lui. Il écoute tout le monde. Deuxièmement, la nature chez lui est omniprésente. C'est-à-dire que c'est un homme qui sent l'océan, qui sent l'iode, qui sent le grand vent qu'il y a devant lui, quand il écrit dans le lookout de troisième étage de Hauteville à Oz, il a la terre, le ciel, la mer. C'est un homme qui... Alors j'allais dire c'est un peu vulgaire parce qu'on en a tous marre, mais c'est un écologiste, si vous voulez. Ce que Stendhal n'était absolument pas. Chez Stendhal, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas de nature, c'est un homme de salon. Hugo est un homme d'univers, donc l'univers, c'est tous les éléments. Mais surtout, Hugo nous rappelle que les invisibles sont présents tout le temps. Dans le Hauteville à Oz, vous avez inscrit... absentes absunt, les absents sont présents. Donc il a compris d'avance le mot de Valérie, que deviendrions-nous sans ce qui n'existe pas. Alors, voyez-vous, un homme qui a cette lucidité, moi je trouve que il peut, je dirais, cristalliser ou synthétiser ou rassembler tous les aspects de la France.
Et qu'il aurait pu incarner ce génie national au moment où notre bonne société des gens de lettres était en quête d'une figure pour l'incarner. Mais peut-être aurait-il refusé cet honneur. C'est probablement ce que pense Robert Badinter. Écoutez-le parler de Victor Hugo.
J'ai une telle tendresse pour le père Hugo. C'est parce que, à mesure qu'il a vieilli, il s'est amélioré. Quand on regarde... Hugo, au début de sa carrière, c'est un jeune ambitieux. Je laisse de côté le fait que c'est un grand, immense génie littéraire, mais c'est un carriériste. Il veut être reconnu socialement, il deviendra le poète pensionné du roi, ensuite il deviendra l'ami du roi Louis-Philippe, il sera nommé père de France, il se présentera 5 fois, il sera enfin reçu à l'Académie française. Il néglige pas les honneurs sociaux, à l'évidence, il en rêve même, et de pouvoir ministériel aussi. Et puis arrive le grand choc du coup d'État, de l'exil, et on voit, à mesure que les années passent, Père Hugo, il est comme libéré des vanités sociales. Ça ne l'intéresse plus. Mais en revanche, il est hanté toujours par cette passion de lutter contre l'injustice. C'est cette flamme-là qu'il habite. Ça n'est pas le ressort de la vanité personnelle. Et à l'âge où on voit si souvent les hommes cultivés, recherchés, les honneurs, les lois, il n'était pas insensible, Hugo, l'admiration des jeunes poètes, c'est pas ça. Mais les reconnaissances sociales n'étaient rien pour lui à côté de mettre un terme aux injustices sociales, et en particulier, il faut le dire, à la peine de mort.
Voilà, l'abolition de la peine de mort, c'est de là, ces deux hommes avaient un combat, une bataille en commun. Victor Hugo qui se serait bonifié avec les années, Régis Debray, il aurait emprunté le chemin inverse de beaucoup, de l'ambition pour l'homme qu'il était à une ambition pour l'humanité. Vous dites aussi qu'il a une idée bien plus grande que lui-même, hein, un sens épique. Est-ce qu'il aurait voulu pour autant incarner la nation ?
Je crois que Hugo s'est monumentalisé consciemment, délibérément. D'ailleurs, quand vous allez à Hauteville-la-Haute, je vous en parle parce que j'en reviens et que la restauration de cette maison est fabuleuse, vous voyez que Hugo s'est construit un mausolée et aussi, je dirais, un portrait de lui-même sur 3 étages où il reconstitue toute sa vie. Au premier étage, il y a le Moyen-Âge, Notre-Dame. Le deuxième étage, il y a, je dirais, la bibliothèque. Le troisième étage, c'est l'ouverture sur le monde entier. Et on retrouve dans cette maison, je dirais, la façon dont il s'est sculpté lui-même, dont il s'est théâtralisé, si vous voulez. Donc c'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord avec mon ami René, avec mon ami Robert Badinter, parce que un carriériste qui choisit l'exil pendant 20 ans, un carriériste qui refuse d'être amnistié en 1959, c'est tout de même pas n'importe qui. Par ailleurs, il n'a pas découvert l'injustice seulement à partir de 1851. Il en était très très conscient et sur la peine de mort, il s'était manifesté bien avant, même auprès de Louis-Philippe. Non, si vous voulez, je crois que Hugo n'a pas, c'est vrai, dédaigné sa puissance symbolique. Voilà. Mais il a payé le prix pour. C'est vrai qu'à côté de Stendhal, élégant, léger, ironique, et qu'il se tient soigneusement à l'écart du tapis rouge et de l'académie, c'est vrai que ça peut faire un peu pompier, Hugo.
Pour vous, Hugo, il s'est aussi monumentalisé en livrant bataille, en anticipant des conquêtes importantes.
Non, mais il a eu certainement, je dirais, conscience de l'importance des médias, n'est-ce pas, puisqu'il était très attentif à l'édition de ses livres, à la diffusion de ses livres. Il a compris la photographie, son fils l'a pris souvent en photographie. Bref, c'est vrai que il ne dédaignait pas de figurer. Mais écoutez, le problème, c'est qu'il y a tellement de Victor Hugo que on peut accentuer tel ou tel aspect. Moi, ce qui m'intéresse chez Hugo, c'est la capacité qu'il a, je dirais, de passer de la cathédrale aux égouts. C'est la capacité qu'il a de passer de la gauche à la droite et de la droite à la gauche, car il faut. Hugo n'a jamais renié son passé. Hugo est l'homme qui peut satisfaire Marc Bloch, lequel disait, comme vous savez, chacun le connaît cette formule, ne peuvent pas comprendre l'histoire de France ceux qui ne vibrent pas au Sacre de Reims et ceux qui ne vibrent pas à la fête de la Fédération. Hugo vibre aux deux. Et même quand il est devenu républicain, si vous lisez 93, ce n'est pas une attaque des Vendéens. Les Misérables, c'est pas une attaque de la police. puisque le suicide de Javert anoblit le personnage. Hugo laisse sa chance à tout le monde. J'allais presque dire, ce n'est pas un partisan. C'est une synthèse constante.
C'est pas la vie de l'un de ces détracteurs, entre guillemets. Il fallait quand même trouver une voie contre. On a choisi celle d'Éric Zemmour, l'auteur du Destin français, procureur de Hugo, qui, selon lui, s'est en permanence fait l'avocat de la victime. Et notamment, il prend pour exemple son roman Le dernier jour d'un condamné.
Évidemment, j'admire l'écrivain, je relirai régulièrement ses grands livres, même ses poésies. Écoutez, j'ai pris un texte, vous savez, Journal d'un condamné, qui est d'ailleurs enseigné systématiquement dans tous les collèges de France. Tout le monde le connaît, c'est Victor Hugo qui défend un condamné à mort. Et ça m'a frappé parce que j'y ai trouvé tous les stigmates de la pensée victimaire contemporaine. C'est-à-dire que quand vous relisez, j'ai relu ce texte à cette occasion, vous verrez qu'il ne parle que du criminel. Il en parle sous des termes vraiment empathiques et il ne parle absolument pas de la victime. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas qui il a tué, on ne sait pas pourquoi il est condamné à mort. Et il est vu uniquement, vous voyez, sous le côté du criminel victime. Et je me suis dit, c'est quand même formidable, il a inventé la victimisation moderne, vous voyez, et la culture de l'excuse. Et il le fait évidemment avec un talent formidable, hein, mais c'est, il en est d'autant plus coupable.
Victor Hugo, parangon de la bonne conscience de gauche, de la pensée victimaire, maître Debré, la parole est à l'avocat.
D'abord, la pensée victimaire, c'est celle du christianisme, en un sens. Hein. Le Christ est une victime. Par ailleurs, Les Misérables, c'est pas du tout une façon de mythifier le peuple. Dans Les Misérables, il y a les Thénardier. Victor Hugo est parfaitement conscient des zones d'ombre. Donc, il n'y a pas chez lui, je dirais, d'apitoiement philanthropique. Simplement, c'est un optimiste qui a pu dire d'ailleurs « La canaille est le commencement douloureux du peuple ». C'est-à-dire que chez lui, on va de la nuit vers la lumière. Donc il dit « Là où il y a de l'ombre, il peut y avoir un soleil levant ». C'est le pari qu'il a pris, c'est son admirable description des émeutes parisiennes de 1832, quand il dit d'une barricade « C'est un tas d'ordures et c'est le mont Sinaï », n'est-ce pas ? Voilà, c'est-à-dire qu'à travers le dépotoir, car il décrit comment une barricade est faite, il ne néglige pas qu'il y a des voyous. D'ailleurs, quand il décrit les gilets jaunes, puisque comme vous savez, il a fait le meilleur reportage qui soit sur les gilets jaunes, c'est dans Les Misérables, il insiste bien qu'il y a des voyous qui arrivent des banlieues. Hein. Bon, voilà. Il y a chez Victor Hugo une complexité, je dirais une complexité optimiste. D'ailleurs, Haute-Ville-à-Auze, au-dessus de son lit, il y a Nox Mors Lux. Je viens de la nuit, je meurs, il y aura de la lumière. Et il sait qu'il y a de la nuit, et que dans la nuit, il y a beaucoup de troubles, hein, venir, voilà. Et donc, je dirais que ce n'est pas un illuministe, ce n'est pas un millénariste, mais c'est vrai qu'il a, il fait confiance à tout ce qui est moche. Il pense qu'un jour, ça peut devenir bien. Au plan historique, c'est pas faux.
Oui, et jusque dans cette formule où il montre son sens de la chronologie. Hein. Vous dites qu'il s'en évade, Hugo, qu'il résume une civilisation en sorte que notre actualité s'y retrouve sans peine. Tandis que Stendhal illustre, lui, une culture située et datée. On va quand même tenter de lui laisser sa chance à Stendhal dans quelques instants. Vous êtes avec nous, Régis Debré, il est midi 20 sur France Culture et on va écouter Jackie Terrasson.
Thank you.
sur un air de jazz avec cette réinterprétation du Requiem de Mozart par le pianiste Jackie Terrasson, Lacrimosa, extrait de l'album 53 sorti aujourd'hui sur le label Blue Note. Il sera en concert, Jackie Terrasson, les 4 octobre à La Rochelle pour le festival Jazz entre les deux tours, le 7 décembre à Bordeaux dans le cadre du festival L'Esprit du Piano, le 12 décembre au New Morning à Paris. Vous aimez le jazz, Régis Debray ?
Oui, bien sûr, j'essaierai d'être là. Voilà. Expliquez-moi le rapport avec Stendhal, sinon peut-être par le rythme. Parce que c'est vrai que Stendhal a une vivacité, je dirais un élan, un rythme qui peut évoquer effectivement ce que vous avez fait intelligemment, de nous rappeler que Mozart peut se mettre en... En jazz, et c'est vrai que Stendhal est mozartien. Parce que d'abord, Stendhal est un homme du XVIIIe siècle. Bon, il est accidentellement, il est au XIXe, mais mentalement, affectivement, c'est un homme du XVIIIe siècle. Et donc, Mozart est tout à fait, je dirais, à sa mesure. Il en a le côté allegro vivace, il en a ce côté, je dirais, dansant, dynamique.
Peut-être
Mozart
aussi...
a des profondeurs que Stendhal n'a pas.
Mais il y avait peut-être aussi cette idée du requiem pour cet auteur que vous enterrez avec beaucoup d'élégance dans cet ouvrage, Régis Debray. Stendhal, deux auteurs, étaient en lice pour incarner le génie français. Je reviens à, il y a un an, cette réunion de la Société des gens de lettres. Stendhal, l'auteur du Rouge et le Noir et de la Chartreuse de Parme, contre Hugo, l'auteur des Misérables, de Notre-Dame de Paris. Va savoir si l'incendie de Notre-Dame avait eu lieu un peu plus tôt. Peut-être que Victor Hugo aurait gagné. Peut-être que le vote de la Société des gens de lettres aurait été différent. Mais reste que là, c'est Stendhal qui a gagné. Alors vous avez promis à cette société de ne pas instruire à charge. Il est temps de redonner peut-être quelques couleurs à Stendhal. Vous n'êtes pas mauvais perdant par ailleurs. En toute bonne foi, qu'est-ce qui peut être mis au crédit de Stendhal? Quelle qualité à vos yeux?
L'énergie, le plaisir et la vérité, hein, qui étaient ces trois, la trilogie, je dirais les trois dieux stendhaliens. Mais d'abord le refus de la grandiloquence, le refus de l'hypocrisie, le souci de la vérité, donc cette sorte de parler vrai avant la lettre, d'écrire vrai, n'est-ce pas, qu'il a peut-être égaré, parce que qui lui a fait prendre... Chateaubriand pour un faiseur, c'est-à-dire que tout ce qui était un peu de l'ordre de la grandeur, ça lui semblait de la grandiloquence. C'est son côté voltairien, hein, bon, c'est son côté petit maître du 18e, n'est-ce pas, qui aime le vif, le piquant, le concis, et qui n'aime pas, je dirais, les grandes orgues. Les orgues, il comprend pas, c'est pas son truc, mais je comprends très bien, bon. On peut mettre à son crédit, je dirais, ce que j'appelle la révolution égotique. C'est-à-dire le fait, très monarchie de Juillet d'ailleurs, que l'homme privé accède à la tribune de l'histoire. C'est ce que la formule de Walter Benjamin. Et c'est vrai que il a une façon de privatiser l'histoire, si vous voulez, de privatiser Waterloo, par exemple. Quand Hugo décrit la bataille de Waterloo, c'est un panoramique, tout y passe, hein, depuis Napoléon jusqu'au dernier Troufion. Et avec Stendhal, on passe de la grande histoire avec sa grande hache à la story, si vous voulez, hein, c'est-à-dire à l'histoire d'un individu qui comprend bien. Et donc on se retrouve très fraternellement, parce que Stendhal, c'est un Français. Alors, il n'aimait pas la France, c'est vrai, mais il partait en Italie dès que ça... Bon. Mais il est typiquement Français, d'abord parce qu'il a, je dirais... comme aurait dit Cioran, la perfection étroite, c'est-à-dire au fond un sens de la mesure, un sens de la distance, une sorte de légèreté gaie, ironique, je dirais la peur d'être dupe aussi, enfin un certain nombre de qualités qui sont françaises. Mais je dirais, on n'est pas dans le même gabarit, on n'est pas dans le même registre que Victor Hugo. Vous savez, dans un livre de Romain Gary que j'aime beaucoup, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, à un moment donné, Romain Gary dit « En France, ça manque d'Amazonie ». Et sa copine brésilienne lui dit « Mais non, vous avez Victor Hugo ». Alors je dis qu'on peut pas comparer l'Amazonie et le bois de Boulogne, on peut pas comparer, je dirais, l'océan Atlantique et les lacs italiens. Mais les lacs italiens, c'est formidable. Autrement dit, oui, il y a deux lignées dans, je dirais, la littérature française. Il y a cette lignée hédoniste, rapide, cursive, moi que j'aime beaucoup. On peut faire, si vous voulez, on peut voir les progénitures. Je pense que un homme comme d'Ormesson, comme Nimier, c'est la filière Stendhal, si vous voulez. Et c'est pas mal, non? C'est même très bien. Mais je crois qu'il y a une autre filière, je dirais celle des grands exilés, pour moi, c'est-à-dire de Bernanos, par exemple, même de Romain Gary, je viens de le citer, c'est un exilé de l'intérieur, Romain Gary, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont capables de rompre avec les leurs, les siens. Je vous rappelle que Victor Hugo, tout de même, il a rompu avec sa classe, il a rompu avec son pays. Prendre la défense des Mexicains quand il y a un corps expéditionnaire français au Mexique, moi je vois pas aujourd'hui les écrivains français qui ont pris la défense des Irakiens devant les corps expéditionnaires occidentaux et malheureusement français, ça, malgré Jacques Chirac.
C'est encore une autre question. Qui pourra incarner la nation aujourd'hui? Quel grand écrivain dans ce 21e siècle, Régis Debray? Il nous reste 2 minutes avant de nous quitter pour le journal et de nous retrouver dans une vingtaine de minutes avec notre deuxième invité, Anne-Marie Thiès. Je vous ai demandé si vous pouviez nous lire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez choisi?
Oh bah écoutez, je vais vous lire un petit paragraphe, une petite strophe que...
Hugo, Victor Hugo.
De Boz endormi, les gens passés 70 ans aiment beaucoup mentionner cette strophe. Je l'ai entendue d'ailleurs dans la bouche de Robert Badinter plus d'une fois, donc je me permets de la reprendre. Le vieillard qui revient vers la source première entre au jour éternel et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard on voit de la lumière. Alors évidemment, c'est un peu compensatoire, hein. On se flatte à partir d'un certain âge. On voit bien que les jours changent et qu'on est mis de côté, mais on aime bien citer cette petite incise de l'admirable, je ne crois pas qu'il en ait de plus beau, poème français que le Boz endormi. Boz s'était couché de fatigue accablée, il avait tout le jour travaillé dans son air, et puis, je dirais, ce final qui nous aime tous. Quel dieu, quel moissonneur de l'éternalité avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Non, mais on n'a rien fait de plus beau, cher ami, dans la littérature française.
Vous restez avec nous, Régis Debray. Du génie français vient de paraître chez Gallimard.